Donc, again, de nouveau, pardon, fête de l'Ascension, fête d'obligation ce jeudi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, l'épître de Saint Jacques est une épître d'une importance toute particulière. J'en veux pour preuve que Martin Luther pouvait pas supporter cette épître. Il l'appelait l'épître de paille. Et dans beaucoup de Bibles protestantes, elle n'est même pas dans la Bible. Il pouvait pas supporter cette épître. Pourquoi? Parce que Saint Jacques expressément indique que la foi sans les œuvres ne vaut rien, est morte. Or, tout le protestantisme est fondé sur la foi seule. La foi sauve. On n'a pas besoin des œuvres. Et logiquement, avec ce principe totalement faux du protestantisme, Martin Luther disait tout le temps à ses fidèles, péchez fortement, mais croyez plus fortement encore. Si vous voyez les conséquences d'une phrase pareille. Et notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Alléluia. Par sa mort, il a effacé tous les péchés. Alléluia. Il suffit de croire qu'il est mort pour nous, croire qu'il est fils de Dieu, et tout le monde va au ciel. Alléluia. Eh bien, Saint Jacques dit expressément le contraire. Voilà pourquoi Martin Luther n'acceptait pas l'épître de Saint Jacques. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cette épître. Certainement une des plus belles pages de l'Écriture sainte. Et qu'est-ce que nous dit Saint Jacques? Ben Saint Jacques, justement, explique que la foi sans les œuvres est morte. Vous savez que toute la vie spirituelle est fondée sur notamment les trois vertus théologales. Pourquoi on appelle ces vertus théologales? Théos en grec, c'est Dieu. Logos, c'est la parole. Les vertus théologales sont donc des vertus qui sont directement centrées sur Dieu. Comme Dieu est infini, ses vertus peuvent progresser à l'infini, pardon. Contrairement aux vertus cardinales, prudence, justice, force et tempérance, qui doivent être tempérées justement par la vertu de prudence. On peut avoir trop de prudence ou pas assez de prudence, trop de force ou pas assez de force, trop de justice ou pas assez de justice. Avec les vertus théologales, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que Dieu étant infini, on peut progresser constamment dans la foi, l'espérance et la charité. Alors à quoi servent ces trois vertus? La foi pour croire. Croire l'intégralité de la foi catholique. La foi catholique n'est pas un libre service, mes bien chers frères. La foi catholique est un ensemble. Il suffit que je nie une seule des vérités de la foi catholique, même une vérité que l'homme moderne jugerait comme relativement secondaire, il suffit que je renie une seule des vérités de la foi catholique et j'en déduis ipso facto, immédiatement, que Dieu, sur ce point qui ne me plaît pas, s'est trompé. Si Dieu s'est trompé, il n'est pas Dieu, tout simplement. Donc quelqu'un qui nie un seul des points de la foi catholique n'est pas catholique. Il ne peut pas dire « je suis catholique à 95% ». Un catholique à 95%, c'est pas un catholique du tout. Que vous niez 5% des vérités de la foi ou 95% des vérités de la foi, le résultat est le même. Vous accusez Dieu d'être un menteur, donc Dieu n'est pas Dieu et vous n'êtes pas catholique. Voilà pourquoi il est capital, mes bien chers frères, de comprendre ceci. Donc la foi me donne, est un don de Dieu, attention. Peut pas avoir la foi par ses propres forces. C'est Dieu qui donne la foi. Quel est le sacrement que le bon Dieu nous donne pour justement nous accorder la foi? Le baptême. C'est par le baptême que du bon Dieu nous donne que Dieu nous donne la foi. Donc la foi, c'est le fait que je peux croire. Je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées, que vous nous enseignez par votre Église, parce qu'étant Dieu, vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper. C'est la foi. La foi mène à l'espérance. La foi pour croire, l'espérance pour prier. J'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous êtes fidèles dans vos promesses. Donc la foi entraîne l'espérance. Ces deux vertus, qu'on appelle des vertus théologales, sont ficelées au corps pour quelqu'un qui a le baptême. Pourquoi? Parce que le baptême va donner la foi et l'espérance. Heureusement que ces vertus ne peuvent pas disparaître toutes seules. Même si je vis dans le péché mortel jusqu'au cou, je garde la foi et l'espérance. Sinon, on ne pourrait plus rien faire. Imaginez que nous perdions la foi et l'espérance par le péché mortel. On a besoin de la foi pour aller se confesser. Comment allez-vous vous confesser à un homme, avouer les secrets les plus intimes de votre âme, sans être certain que cet homme à qui je me confesse représente Dieu, a le sacerdoce, a le sacrement de l'ordre en lui, marqué sur son âme par son caractère qui fait de lui un ministre de Dieu, et sans être persuadé et convaincu qu'à cause de ce caractère, Dieu lui donnera les grâces d'état pour garder le secret de confession. Si je n'ai pas la foi et que j'ai perdu la foi par le péché mortel, je ne peux plus jamais aller me confesser. Donc la foi et l'espérance demeurent. Cependant, cette foi et cette espérance, foi pour croire, espérance pour prier, ont pour but la charité. La charité aussi est donnée par le baptême. La charité, c'est quoi? Charité, encore une fois, il y a beaucoup de confusion, même chez beaucoup de non-fidèles, avec la charité. La charité ne consiste pas à aider les pauvres, ce n'est pas la charité, ça. La charité, c'est d'abord avoir une vertu qui va nous aider à remplir la loi de Dieu. Si je ne suis pas la loi des commandements du bon Dieu, nous dit Saint Jean dans son épître de Saint Jean, je suis un menteur. Donc, foi pour croire, espérance pour prier, et ces deux fondations, si vous voulez, vont permettre l'élévation de la vertu de charité qui me permet de remplir la loi du bon Dieu. Donc, si je ne remplis pas la loi du bon Dieu, si je refuse un commandement, même 1 sur 10, ipso facto, je perds la charité, évidemment, parce que la charité est détruite par le péché mortel. Si je perds la charité, je vais perdre, en quelque sorte, la lumière qui brûle dans mon âme. Certes, je vais garder la foi et l'espérance. Saint Thomas d'Aquin explique très bien dans sa somme théologique, c'est le catéchisme traditionnel également, que lorsque j'ai perdu la charité par le péché mortel, je garde la foi et l'espérance, mais je garde une foi et une espérance informe. Pourquoi? Parce que la charité permet la forme, donne la forme philosophique, philosophiquement parlant, on utilise ce terme-là, la forme de la foi et de l'espérance. De même qu'on dit que l'âme donne la forme du corps. Un corps sans âme, c'est un cadavre. Dans les cimetières, il y a des corps sans âme. Donc l'âme est nécessaire pour donner la forme du corps. De la même façon, pour qu'une foi et une espérance soient vivantes, il faut que cette foi et cette espérance soient vivifiées par la vertu de charité. N'oublions pas que le but de notre vie, nous sommes sur la terre pour cela, nous sommes sur la terre pour aller au ciel. C'est ça le but de la vie sur la terre. Le bon Dieu nous place sur la terre pendant un certain temps pour nous permettre d'aller au ciel. Pour aller au ciel, il y a une condition, c'est la vertu de charité. Ce n'est pas parce que j'ai la foi et l'espérance que je peux aller au ciel, ça ne suffit pas. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui possédera le royaume des cieux, mais celui qui écoute la parole du bon Dieu et qui la met en pratique. Et c'est ce que va nous dire exactement Saint Jacques dans cette épître. Voilà ce qu'il dit. Celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique, mettre en pratique la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la vertu de charité. Donc celui qui écoute la parole de Dieu par la foi et l'espérance, mais qui n'a pas la charité, ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir, il se regarde, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Ça, c'est l'homme moderne. Vous regardez dans un miroir, vous voyez votre image sur le miroir, et vous quittez le miroir, l'image disparaît. Ne restez pas fixé sur le miroir. Et donc, cette interprétation est tout à fait claire dans l'histoire, dans l'Église. Si je n'ai pas la charité, ma foi est morte. Donc, le bon Dieu va pouvoir juger notre degré de foi et d'espérance d'après le degré de charité. La charité, encore une fois, nous aide à suivre la loi du bon Dieu. Si je n'ai pas la charité, ma foi est morte. Autre point, je vais reprendre les points simplement importants de cette épître parce qu'on ne peut pas parler de tout. Saint Jacques nous dit également que celui qui considère attentivement la loi parfaite qui est la loi de la liberté, s'y attache, n'écoutant pas pour oublier, mais passant à l'œuvre, celui-là trouvera son bonheur dans ce qu'il fait. Saint Jacques nous dit expressément que la loi parfaite, c'est la loi de la liberté. Ça veut dire quoi, ça? La loi de la liberté, c'est une loi parfaite, nous dit Saint Jacques. La loi de la liberté, c'est pas la loi qui me permet de faire ce que je veux, parce que ça, c'est pas la liberté, c'est la licence. La loi de la liberté, c'est la loi qui me dit que je façonne ma vie, si vous voulez, avec la grâce du bon Dieu, pour que je puisse me mouvoir dans le bien. C'est l'expression du pape Léon XIII. Donc, dans l'idée de l'Église, dans le catéchisme catholique, et c'est un point que la plupart de nos fidèles ne connaissent pas, la liberté ne nous a jamais, jamais été donnée par Dieu pour offenser Dieu. On n'a pas de liberté pour ça. Est-ce qu'on est libre d'offenser Dieu? Vous avez une liberté physique. Mais cette liberté physique ne va jamais transformer quelque chose de mauvais en quelque chose de bon. En France, on roule à droite. Est-ce que vous avez physiquement le pouvoir de rouler sur la voie de gauche? Oui, vous pouvez prendre votre volant sur l'autoroute et prendre volontairement l'autoroute à contresens. Il va vite vous arriver des bricoles. Pourquoi? Parce que vous avez le pouvoir physique de vous mettre sur la mauvaise voie, mais vous n'avez pas le pouvoir moral, donc il n'y a pas de liberté morale de faire le mal. Dans l'esprit de l'Église, la liberté nous est donnée pour choisir les moyens, parmi les moyens qui nous sont proposés, celui qui est bon pour nous pour atteindre la fin pour laquelle je suis créé. Or, pourquoi j'ai été créé? On retrouve le texte d'origine de Saint Jacques. J'ai été créé pour pratiquer la charité, j'ai été créé pour le ciel. Donc, j'ai le droit d'utiliser ma liberté que le bon Dieu me donne comme loi parfaite. J'ai le droit d'utiliser cette liberté dans la mesure où cette liberté m'aide à me maintenir dans la voie droite, la voie de la charité, c'est-à-dire la voie des commandements du bon Dieu. Autre point extrêmement important, Saint Jacques, l'apôtre Saint Jacques, donc, va nous parler de la fausse piété. C'est que la piété, c'est un des dons du Saint-Esprit. C'est donc une conséquence de la charité. Les dons du Saint-Esprit, on ne va pas les garder sans la charité, parce que c'est ce qu'on appelle la couronne de la charité. Vous avez ces sept dons du Saint-Esprit, donc on vous parlera plus longuement pour la fête de la Pentecôte qui arrive bientôt. Vous avez ces sept dons du Saint-Esprit, et ces sept dons du Saint-Esprit ne peuvent exister dans une âme que s'il y a la charité. Si la charité disparaît, la couronne de la charité disparaît, donc les dons du Saint-Esprit disparaissent. Donc la piété est un don du Saint-Esprit qui va travailler avec le don de science pour prier, la piété, mais prier avec l'esprit d'Église, la science. Et voilà ce que nous dit Saint-Jacques. Si quelqu'un croit avoir de la piété et ne met pas un frein à sa langue, mais séduit lui-même son cœur, sa piété est vaine. Ça veut dire que si je prie, même que je prie toute la journée, mais si je n'ai pas la charité, ma piété est fausse, ma piété est vaine. Voilà pourquoi Saint-Jacques dit expressément que si, justement, je ne mets pas un frein à ma langue, ma piété est vaine. Ici, évidemment, on touche le huitième commandement. Donc, une des conséquences de la vertu de piété en nous, c'est la vertu de charité. Si j'ai la vertu de charité en moi, je vais pouvoir suivre les commandements de Dieu, notamment, ici c'est l'allusion claire, au huitième commandement, tu ne mentiras pas. Donc si je prétends avoir la charité, je prétends avoir l'amitié du bon Dieu en moi, mais dans la pratique, j'utilise ma langue pour casser du sucre sur le dos des gens en longueur de journée, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors quels sont les péchés les plus graves contre le huitième commandement? Tu ne mentiras pas. Et d'abord, évidemment, le mensonge. Vous savez qu'il y a trois sortes de mensonges. Il y a des mensonges qu'on appelle des mensonges joyeux. C'est plutôt une blague, si vous voulez, que tout le monde prend comme tel. En général, on peut dire qu'un mensonge joyeux, ce n'est même pas un péché. Il y a des mensonges officieux. C'est un mensonge pour se tirer d'affaire. Il y a un mensonge pernicieux. C'est un mensonge qui va directement contre le prochain. Le mensonge pernicieux, évidemment, le plus grave. Et dans bien des cas, c'est une faute grave. Autre péché contre le huitième commandement, le péché de calomnie. Calomnie, c'est quoi? Calomnie, c'est mentir sur le prochain, détruisant sa réputation par quelque chose qui est complètement fausse. La plupart du temps, c'est une matière grave, il y a faute grave. On n'a jamais le droit de mentir sur le prochain pour détruire sa réputation. Ça, c'est ce qu'on appelle la calomnie. Les gens comprennent bien ça. Les gens comprennent que si j'ai calomnié le voisin en racontant des gaudrioles contre lui qui sont complètement fausses, je dois réparer avant de pouvoir prétendre être pardonné par le bon Dieu. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a un autre péché très important contre le huitième commandement, qui est le péché de médisance. Quelle est la différence entre la calomnie et la médisance? La médisance, c'est mentir contre le prochain. Pardon, la calomnie, c'est mentir contre le prochain. La médisance, c'est dire du mal du prochain, qui est vrai, mais que je n'ai pas le droit de dire. Parce que beaucoup, beaucoup de gens sont comme ça. Vous savez, j'ai raconté des mauvaises choses contre le prochain, mais ce que j'ai dit est vrai, donc j'ai le droit de le dire. Non. Parce qu'on n'a pas le droit de dire des choses mauvaises contre le prochain, même véritables, même vraies, sans une raison proportionnée. Il peut y avoir des raisons proportionnées. Une maman aurait parfaitement le droit, et même le devoir, de dire à son petit garçon de 5 ans, à l'école, je t'ai interdit de jouer avec tel garçon parce que c'est un petit vaurien, un petit garnement, il va t'apprendre plein de gros mots, je ne veux pas te voir jouer avec lui. C'est quelque chose de mauvais qu'elle dit contre un petit garçon de l'école. Mais elle a le droit de le dire, elle a même le devoir de le dire pour protéger l'âme de son enfant. Par contre, je n'ai pas le droit de démolir la réputation du prochain, même avec quelque chose qui est véritable, sans une raison proportionnée. Par exemple, je sais que mon voisin est un poivreau fini, il boit 3 bouteilles de whisky tous les jours, parce que c'est mon voisin, je sais qu'il est comme ça le soir, et personne ne sait dans le village. Est-ce que j'ai le droit d'annoncer à tout le monde, à qui veut l'entendre, que mon voisin est un poivreau et boit 3 bouteilles de whisky tous les soirs? Non, parce que je n'ai pas le droit de détruire sa réputation, même fausse, en dévoilant des choses qui sont des choses privées. Vous voyez, donc là, attention, alors quel est le danger de la médisance? Le danger de la médisance, c'est que c'est un péché très difficile à rattraper. C'est un péché contre la justice, attention. Donc le bon Dieu exige également de rattraper les péchés de médisance. Quand vous avez dit quelque chose de mal contre le prochain qui est vrai, comment voulez-vous rattraper ça? C'est pas évident du tout. Vous pouvez pas dire au prochain, mais ouais, je vous ai raconté que mon voisin buvait 3 bouteilles de whisky tous les soirs. Bon, c'est vrai, mais... Alors, pour rattraper, il faut rattraper en général de manière indirecte, ce qui n'est pas facile, en commençant à dire de bonnes choses sur le voisin, pour rattraper la mauvaise impression que vous avez donnée. Donc, attention à ça. C'est pour ça que Saint Jacques insiste lourdement sur ce point. Si quelqu'un croit avoir de la piété, mais ne met pas un frein à sa langue, mais séduit lui-même son cœur, sa piété est vaine. Et Saint Jacques enfonce le clou. Ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il rajoute après? Il parle de la piété de nouveau. Et il dit, la piété pure et sans tache aux yeux de Dieu, notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se préserver de la corruption de ce monde. Encore quelque chose qui ne passe plus du tout dans le monde moderne. Donc la vertu de piété, c'est-à-dire la vertu de charité, la piété est une conséquence de la vertu de charité, la vertu de charité doit nous protéger de la corruption de ce monde. C'est quoi la corruption de ce monde? Qu'est-ce que veut dire Saint Jacques? Qu'est-ce qui est derrière cette expression, la corruption de ce monde? Il y a les 3 concupiscences. Concupiscence des yeux, le désir de tout posséder, concupiscence de la chair, tous les péchés d'impureté et l'orgueil de la vie. Et donc il nous faut éliminer ces 3 autant que faire se peut ces trois concupiscences afin de pratiquer la vertu de piété, donc garder la vertu de charité en nous. Alors comment on élimine ou on essaie d'éliminer ces 3 concupiscences? En utilisant ce qu'on appelle les conseils évangéliques. Il y a 3 conseils évangéliques. Pauvreté, chasteté, obéissance. Et là on touche à ce qu'on appelle l'édifice des vertus. Il y a toute la vie spirituelle d'un individu catholique est basée sur 10 vertus, les 3 vertus théologales, foi, espérance, charité, les 4 vertus cardinales, prudence, justice, force et tempérance, ça fait 7, plus les conseils évangéliques de pauvreté, chasteté, d'obéissance. Qu'est-ce que viennent faire ces 3 vertus? La pauvreté pour lutter contre la concupiscence des yeux, la chasteté pour lutter contre la concupiscence de la chair, et l'obéissance pour lutter contre la concupiscence de l'orgueil. Vous voyez comment, en agissant ainsi, on peut arriver à, non pas à se préserver totalement la corruption du monde, parce que malheureusement ce n'est pas possible, mais au moins empêcher l'esprit du monde de rentrer dans notre cœur. Il y a d'autres façons d'expliquer cela. On peut dire que l'esprit du monde, ce n'est pas simplement l'esprit des trois concupiscences, de l'orgueil, des yeux et de la chair. L'esprit du monde, c'est représenté par 3 mots qu'on entend partout, qui sont gravés sur tous les frontons de nos mairies, hélas. Liberté, égalité, fraternité. C'est la même chose. Liberté, égalité et fraternité, c'est l'exacerbation des 3 concupiscences de l'orgueil, des yeux et de la chair. Vous voyez, comme c'est important de comprendre ces choses-là, qui sont, il faut bien avouer ce qui est, qui sont des choses difficiles à comprendre. Je peux vous donner un exemple qui est très important, un des textes du magistère de l'Église les plus importants. C'est certainement le texte Quanta Cura du pape Pie IX. Monseigneur Lefebvre nous le disait au séminaire avec raison, il nous disait un des textes les plus importants du magistère moderne des derniers siècles, c'est le texte Quanta Cura du pape Pie IX, 1864. Ça a plus d'un siècle. L'évangile a 3000 ans, je me permets de vous rappeler. Donc qu'est-ce que dit le pape Pie IX? Le pape Pie IX dit, dans Quanta Cura, la liberté de conscience est une liberté de perdition et une insanité. Et ensuite, il rajoute à Quanta Cura, l'encyclique dont je viens de vous parler, une liste de 80 propositions condamnées par l'Église, qu'on appelle le syllabus. La dernière de ces propositions, c'est la proposition numéro 80. C'est la dernière, elle est facile à trouver. Elle est condamnée par l'Église, et qu'est-ce que dit cette condamnation? Le pape doit se réconcilier avec le progrès, le libéralisme et le monde moderne. Rien que ça. Condamné par l'Église. Ça veut donc dire quoi? Que l'Église enseigne infailliblement, évidemment c'est couvert par l'infaillibilité, ces textes-là qui sont essentiels, l'Église enseigne infailliblement que le pape doit lutter contre le progrès, le libéralisme et le monde moderne. Ça ne veut pas dire que je vais devoir utiliser une machine à écrire, que je ne peux pas utiliser un ordinateur, ce n'est pas du tout ce progrès-là dont on parle. C'est un progrès qui prétend prendre la place du bon Dieu. Et Saint Jacques en parlait déjà il y a 2000 ans. Il faut relire ce texte de Saint Jacques. La piété, pure et sans tache aux yeux de Dieu notre Père, c'est de se préserver de la corruption du monde. Donc si je laisse rentrer la corruption du monde, à commencer dans mon âme, encore plus dans ma famille, comment voulez-vous que mon âme puisse rester en état de grâce? C'est ça que veut dire Saint Jacques. Il dit que si je laisse l'esprit du monde rentrer dans mon âme, l'esprit du monde, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, les trois concupiscences, eh bien la piété va disparaître. Or, la piété est un don du Saint-Esprit qui suit la charité. Si la piété disparaît, ça veut dire que la charité a disparu. Alors, mes chers frères, il faut avoir suffisamment d'humilité, et c'est pas très facile, pour reconnaître que nous sommes tous contaminés par ces idées-là. Monseigneur Lefebvre nous le disait au séminaire très fréquemment, il nous disait, dans la formation que j'ai reçue, constamment il nous disait, ce n'est pas possible, nous disait-il, que vous n'ayez pas des problèmes avec ces grandes vérités. Parce que nous disait-il, vous avez tous été contaminés par ces idées modernes, par le lait de votre mère, nous disait-il. Et il nous disait, plus vous avez fait des études universitaires, plus vous êtes contaminés. Et il avait raison. Il avait parfaitement raison. Alors il faut demander à notre Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, de nous aider à nous décontaminer. Nous décontaminer du péché, nous décontaminer de l'esprit du monde, nous décontaminer de ces principes qui entraînent les âmes en enfer, de la liberté de perdition, de cette insanité qu'est la liberté de conscience, de la liberté, l'égalité, la fraternité, la concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et l'orgueil. Et c'est le rôle de l'Église. À quoi servent les sacrements? Pourquoi lorsque le bon Dieu nous demande de nous confesser souvent? Notre Seigneur nous demande de nous confesser souvent, justement pour nous décontaminer de l'esprit du monde. Quand on est contaminé par un produit chimique, il faut se décontaminer, ça ne se fait pas en 5 minutes. Le produit chimique, il rentre vite dans notre organisme. Une fois qu'ils sont fixés dans l'organisme, dans les os et dans les muscles, bon courage pour vous en débarrasser, c'est pratiquement impossible. Ça prend beaucoup de temps. C'est la même chose. Donc il nous faut faire un examen de conscience. Là, vraiment nous regarder dans le miroir, comme disait Saint Jacques, et rester devant le miroir pour voir jusqu'à quel degré j'ai été contaminé. Et si je constate que j'ai été contaminé par ces idées fausses, parce que je constate que mes idées que je défends s'opposent à ce que l'Église catholique a toujours enseigné pendant 2000 ans, il y a un problème. Et je dois avoir suffisamment d'humilité pour savoir me mettre à genoux au pied du bon Dieu, me mettre à genoux au pied du ministre de Dieu qui est le prêtre, en disant, mon Dieu, pardonnez-moi parce que je suis un pécheur. C'est la première étape. La première étape, c'est ça. La première étape, c'est se confesser, pour pouvoir justement récupérer cette amitié avec le bon Dieu. C'est ce qu'on fait avec les exercices Saint-Ignace. La semaine dernière, j'ai prêché une retraite de 6 personnes. Et bien, c'est ce qu'on fait au début de la retraite. Enfin, deux premiers jours, 2 jours et demi, au début, on prépare les gens à la confession. Bon, à propos des retraites, j'ai oublié de vous dire que j'ai toujours quelques places libres pour les deux retraites, les deux dernières retraites de l'année, en septembre et en octobre. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, de nous aider à comprendre toutes ces choses. Quand on explique ces choses-là, qui sont pourtant le béaba, je dirais, de la foi catholique, beaucoup de gens nous disent « mais monsieur l'abbé, vous êtes bien gentil, vous êtes bien mignon, mais enfin, monsieur l'abbé, on est en 2022, voyons !» On est au siècle de l'ordinateur, au siècle de On ne peut plus prêcher ces choses-là. On ne peut plus expliquer que la liberté, l'égalité, la fraternité sont des mauvaises choses. Monsieur l'abbé, c'est partout sur nos pièces de monnaie, c'est partout sur nos billets de banque, c'est partout sur nos mairies. Monsieur l'abbé, vivez dans votre temps. La réponse est toute simple. Le but du prêtre, c'est quoi? Le but de l'église, c'est quoi? Aider les gens à s'en sentir bien ici-bas ou aider les gens à s'en sentir bien au ciel? Pas du tout la même chose. Est-ce que je peux me sentir bien au ciel un jour si je me sens bien ici-bas? C'est impossible. Et il y a un choix à faire. Ou je me sens bien ici-bas, ça veut dire que j'ai accepté l'esprit du monde, la liberté, l'égalité, la fraternité, et je ne pourrai pas aller au ciel. Ou je me prépare à aller au ciel pour me sentir bien au ciel près de Dieu pour toute l'éternité, dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, afin justement de me décontaminer ici-bas. Un des bons moyens de décontamination, c'est la dévotion à la Sainte Vierge, mes bien chers frères. La dévotion à la Sainte Vierge. Parce que lorsque la Sainte Vierge Marie vit dans une âme, le démon, il ne vient pas. Hein. On dit que le démon, lorsqu'il veut pénétrer dans une âme, il commence par regarder par la fenêtre de derrière pour vérifier qu'il n'y a pas la Sainte Vierge dans cette âme. Et que s'il y a la Sainte Vierge dans cette âme, croyez-moi, il n'ouvre pas la fenêtre. Il ne cherche pas à rentrer par derrière. Parce qu'il sait, il se rappelle ce qui a été dit sur la Sainte Vierge, elle t'écrasera la tête. Voilà ce que bon Dieu a dit. Donc demandons à ta Sainte Vierge Marie de nous aider à nous décontaminer, avoir l'humilité de reconnaître que je suis contaminé par les idées modernes, je suis contaminé par le progrès du monde moderne, par le libéralisme du monde moderne, par l'esprit moderne. Je dois me décontaminer pour m'aider à rester en état de grâce, aider mes enfants à vivre en état de grâce, afin qu'un jour on puisse tous se retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.